Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous évoquons dans Décryptage les relations attendues entre l'Iran et les États-Unis de Joe Biden à 2 semaines jour pour jour de l'investiture du futur président américain. Joe Biden qui, lors de la campagne, lors de son élection également, a pris soin de jouer la carte de l'apaisement avec l'Iran pour trancher avec Donald Trump. Il a évoqué notamment un retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire. Mais les discussions ne s'annoncent pas pour autant gagnées d'avance. En témoigne en début de semaine plusieurs initiatives iraniennes, la plus marquante, la reprise de la production d'uranium enrichi à 20%. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi à ce moment-là? Quid des alliés? Les alliés à la fois côté américain, côté iranien, les blocs évoluent, ils semblent se renforcer. Dans ce jeu géopolitique, est-ce qu'on va vers un durcissement ou est-ce qu'on va vers un apaisement? Voilà les questions de Décryptage ce soir. Et pour y répondre, notre invité est Thierry Coville, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran. L'Iran qui, on pourrait le dire, commence fort l'année, entre guillemets. J'évoquais la reprise de l'enrichissement d'uranium à 20%. Il y a deux autres actions qui ne sont pas passées inaperçues. La saisie d'un pétrolier sud-coréen près du détroit d'Hormuz et l'annonce d'exercices militaires avec des centaines de drones. Pourquoi cette agitation, on l'a dit, à 2 semaines de l'investiture de Joe Biden?
Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est, je sais pas si vous vous rappelez, c'est suite à l'assassinat du scientifique iranien, donc en décembre, Farizadeh. Le Parlement iranien a voté une loi qui disait très clairement, si les sanctions américaines concernant les banques et le pétrole ne sont pas levées en janvier, l'Iran commencera à enrichir de l'uranium à 20% et arrêtera d'accepter les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est chargé de contrôler le programme nucléaire iranien d'après l'accord de 2015.
Alors ça a été un point important, ça, l'assassinat.
Donc ce que je voulais dire, c'est que cette loi est votée par le Parlement, qui est plutôt contrôlé par les durs. Le gouvernement iranien de Rouhani dit, c'est pas bien, nous on est contre cette loi parce que ça va gêner nos négociations avec les Américains. Alors on apprend, je crois qu'il y a quelques jours, que finalement l'Iran annonce, sans donner de date, qu'ils vont enrichir l'uranium à 20%. Alors là, je me dis, bon, c'est toujours décrypté ce qui se passe en Iran. Vous savez, le pouvoir en Iran est multipolaire. Il y a le Parlement, il y a le Président. Celui qui est au-dessous de tout ça, c'est le guide. Moi, ce que je me suis dit, c'est que très clairement, l'Iran, pour préparer à la négociation avec les Américains, en train de leur dire, le guide a pris cette décision. On a vu, le président était contre, mais le guide Ali Khamenei a dit, bon, on va commencer à enrichir à 20%. Donc maintenant, ils ont dit, on va commencer à enrichir à 20%. À mon avis, c'est une annonce faite aux Américains en leur disant, écoutez, vous revenez dans l'accord, comme vous l'avez dit, vous supprimez les sanctions en revenant dans l'accord. Et en gros, j'ai envie de dire, basta, le reste, on verra. Et donc, si vous faites pas ça, parce que c'est janvier, si vous faites pas ça, regardez ce qui peut se passer. Nous, on plaisante pas. Nous, on est prêts à commencer à enrichir à 1%. Et là, c'est vrai que c'est grave. Enfin, grave. Objectivement, en commençant à enrichir 1%, l'Iran sort de l'accord de 2015. Donc, ils disent aux Américains, bon, très bien, vous revenez pas dans l'accord, nous, on va en sortir. Et là, très clairement, ils se dirigent vers, on va dire, vers l'arme atomique, quelque part.
La question, c'est de savoir qui va faire le premier pas, finalement, sur cette question entre les États-Unis et l'Iran. Et sur ce point-là, je voudrais vous faire écouter un extrait de ce que disait le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, à destination du futur président américain, justement, Joe Biden. C'était au mois de novembre, c'était quelques jours après l'élection de Joe Biden.
Dès que les États-Unis reviendront à leurs engagements dans le cadre de la résolution 2231, ce sera dans leur intérêt, ainsi que celui du monde et de l'Iran. Notre objectif doit être de faire baisser la pression contre le peuple iranien. La situation nécessite que les États-Unis reviennent à leurs engagements. Dès qu'ils le feront, nous le ferons aussi.
Voilà, Thierry Coville, le message est clair, ça a fait écho à ce que vous nous disiez à l'instant, entre l'Iran et les États-Unis. Pour l'Iran, c'est aux États-Unis de faire le premier pas.
On n'est pas là pour dire qu'il y a les bons et les méchants, mais l'Iran a pas tort. Je veux dire, l'Iran, rappelons aussi un petit peu l'histoire. L'Iran signe cet accord en 2015. Il est respecté à la lettre par l'Iran. Il y a 11 rapports, je sais pas combien de rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui montrent que l'Iran respecte là. Les États-Unis, en mai 2018, sortent de l'accord sans raison. Parce que Trump a d'autres, bon, il a pas confiance, etc. Donc, l'Iran, pendant un an, entre mai 2018 et juin 2019, va respecter l'accord à la lettre, en étant écrasé par les sanctions américaines, avec une économie qui s'effondre. À partir de juin 2019, effectivement, ils changent de stratégie. Donc ça peut plus durer. Notamment, les Européens n'ont rien fait pour contrer les sanctions américaines. Donc, ils ont commencé à faire deux choses, à mener des actions dans le Golfe de déstabilisation. On pense à l'attaque des installations pétrolières saoudiennes, bon, justement, l'Iran était à l'origine. Puis également, ils ont commencé à détricoter l'accord. C'est-à-dire, par exemple, ils enrichissent plus à 3 et quelques pourcents. Maintenant, ils sont à 4,7%, si vous voulez. Et donc, mais ils sont restés dans l'accord. Et je pensais, si vous voulez, ce qui s'est passé après l'assassinat également de Soleimani en janvier 2020.
Le général américain.
Le général iranien.
Iranien, pardon.
Ouais. Et l'Iran n'a pas bougé finalement, n'a pas vraiment cherché à manger. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient deux choses. La levée de l'embargo sur les armes qui était prévue dans l'accord en octobre 2020 qu'ils ont obtenu et le résultat des élections américaines présidentielles en se disant il est possible que l'adversaire de Trump voudra revenir dans l'accord. Donc dans ce cas-là, on a intérêt à adopter ce qu'ils appellent une politique de patience stratégique. Ce qui me fait dire que on est plus dans une logique actuellement ce qui se passe. Ils montrent les dents en disant aux Américains, écoutez, nous on attend que vous reveniez dans cet accord, faites-le, regardez autrement, regardez ce qui peut se passer.
Donc c'est bien ça, c'est aux États-Unis de prendre l'initiative. D'abord, ils reviennent dans l'accord, donc ça veut dire d'abord, ils annulent les sanctions.
Dans quel sens c'est aux États-Unis de respecter le droit international.
Mais alors attendez, parce que Thierry Coville, revenir dans l'accord, ça s'annonce pas si simple avec un Iran qui enrichit sa production d'uranium à 20%. On est l'accord, c'était maximum le seuil 4%.
3,7%.
Voilà, c'est ça.
Non, mais alors, l'Iran a dit, je crois que c'est le passage de Zarif venait passer, si les États-Unis reviennent dans l'accord. Nous, on annule toutes ces mesures tout de suite qu'on a prises depuis juin 2019. Le guide, qui est plutôt un dur, a fait une déclaration il y a quelques semaines en disant « Si on peut prendre des actions pour lever les sanctions, on ne doit pas hésiter une minute. » Ça, c'est très clairement un message adressé. Non, franchement, si les États-Unis reviennent dans l'accord et surtout annulent les sanctions, l'Iran revient, et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont dit, à la situation de 2017, début 2018, avant la sortie des États-Unis de l'accord.
Donc la balle est clairement dans le camp des États-Unis. Est-ce que Joe Biden va revenir dans l'accord comme il s'y est engagé lors de sa campagne, mais avec, entre-temps, c'est quand même important, justement, l'Iran qui a augmenté sa production d'enrichissement d'uranium, il y a un signal important. Il y a l'Amérique qui risque un petit peu de perdre la face si elle concède cela face à, justement, cet ennemi qui a enrichi sa production d'uranium.
Non, alors premièrement, ce qui est un point positif, c'est dans l'équipe de Biden, il y a des gens qui ont déjà négocié avec l'Iran, donc à différence de Trump, qui connaissent l'Iran. Donc ce que je suis en train de vous dire, ils le savent. Hein, ils le savent. Ils savent très bien que s'ils reviennent dans l'accord, l'Iran va annuler toutes ces mesures. Ça, c'est assez clair. Bon, ce qui inquiète un peu les Iraniens, c'est que notamment il y a Jack Sullivan qui va être le futur directeur du Conseil national de sécurité, qui a négocié avec l'Iran, qui a dit des choses comme. Ok, oui, on va négocier avec l'Iran, mais on va aussi négocier le problème balistique iranien, on va y négocier sur leur politique régionale. Et ça, l'Iran veut pas en entendre parler. Hein. Ils sont sur une logique, écoutez, vous êtes sorti de l'accord sans raison, vous revenez dans l'accord, vous avez les sanctions, le reste, à la limite, c'est pas votre problème, on veut pas en parler. Et je pense que c'est aussi ça qui est en train de se jouer. Les Iraniens sont en train de donner des messages aux Américains, écoutez, cette histoire de grand accord, laissez tomber, ça va pas marcher, nous on est contre. Donc c'est un petit peu, Biden a dit qu'il reviendrait dans l'accord, ok, mais ce dont les Iraniens ne veulent pas, c'est vraiment des grandes négociations sur un nouvel accord sur le nucléaire. Ils veulent que l'accord de 2015 soit respecté, c'est tout. Hein. Le problème balistique iranien et leur politique régionale. Ça, ce grand accord, ils n'en veulent pas. Et
les intentions de Joe Biden, justement, on va les évoquer à présent. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut trancher avec le bilan de Donald Trump, avec l'action de Donald Trump, justement, vis-à-vis des autres pays, et notamment vis-à-vis de l'Iran. On va écouter ce que disait Joe Biden le 12 novembre dernier. C'était quelques jours après son élection. Il évoque l'Iran, mais pas seulement. Écoutez Joe Biden.
Nous sommes maintenant plus isolés que jamais dans le monde. Nos alliés sont seuls. Le slogan « America first » signifie en réalité « l'Amérique seule ». L'Iran a maintenant presque assez de moyens nucléaires pour fabriquer une bombe. La Corée du Nord a plus de bombes et de missiles à sa disposition. Nos alliés de l'OTAN disent publiquement qu'ils ne peuvent plus compter sur nous. Donc je pense que nous sommes moins en sécurité aujourd'hui qu'autrefois.
Thierry Coville est moins en sécurité, plus isolé. Cela veut dire que l'Amérique de Joe Biden va davantage s'ouvrir et ça commence par l'Iran.
En tout cas, c'est un dossier important parce que si je pense que ce concerne la diplomatie de Trump, notamment au Moyen-Orient, cette obsession anti-iranienne, ça a quand même marqué son mandat. Donc effectivement, c'est une des grandes différences de la diplomatie de Biden qui s'annonce, c'est contrairement à Trump, il veut pas. Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire et a appliqué une politique de pression maximum contre l'Iran.
Qui s'est avéré être un échec, clairement.
Ah oui, mais si vous voulez, quand on veut évaluer une politique, il faut avoir des critères. Si les critères c'était que l'Iran change sa politique et négocie sur ce qu'attendent les Américains, oui, c'est un échec. Voilà. Ah, par contre, ils ont détruit l'économie iranienne, ça c'est clair. Mais si vous voulez, sur le plan des objectifs fixés eux-mêmes par les Américains, c'est un échec. Donc, Biden s'inscrit complètement en faux là-dessus. Il veut pas une politique de pression maximum contre l'Iran et il veut revenir dans l'accord de 2015.
Et au-delà de l'accord de 2015, les relations avec l'Iran, il y a aussi cette question des sanctions. Est-ce qu'on peut imaginer un allègement des sanctions côté américain?
Alors, si vous voulez, c'est la grande question. Bon, déjà, Biden a dit, il faut être clair, hein, si Biden, dans l'hypothèse où il revient dans l'accord, tous les autres sujets qui fâchent existent, hein, la politique de l'Iran dans la région, Israël, le problème balistique iranien, et il y a plein d'autres sanctions qui concernent pas le nucléaire qui vont rester contre l'Iran. Mais disons, ce serait déjà un premier pas. C'est déjà un petit peu ce qu'a tenté de faire Obama.
Peut-être le déclic, parce que c'est assez charnière cette question-là.
Ben, si vous voulez, c'est pour ça que l'accord 2015 était important. C'est le premier accord diplomatique depuis la révolution iranienne, c'est pas rien, où vous avez les États-Unis et l'Iran côte à côte. Donc moi, à l'époque, j'étais pas le seul. On se disait, bon, ça concerne le nucléaire, mais c'est peut-être le début de quelque chose.
Alors, le début d'une détente ?
Faut être prudent parce que l'anti-américanisme en Iran, c'est presque un des points forts de la République islamique d'Iran. Mais je me disais, si cet accord, il était respecté par l'Iran. Hein. Pourtant, en Iran, il y a des gens qui étaient contre cet accord, comme le guide. Hein. Il était respecté. Donc, si cet accord, ça permet de, les deux pays se connaissent mieux, Zarif et Kerry n'ont pas arrêté de négocier ensemble pendant quelques temps. Il y a une certaine confiance qui apparaît. On peut peut-être avoir le début de quelque chose. Vous savez, c'est pas à pas, hein, la diplomatie. C'est un petit peu comme quand les États-Unis ont repris les relations avec la Chine communiste. Pas à pas, un petit pas. Et puis, petit à petit, ça peut s'améliorer. C'est pour ça que la sortie de Trump, de ce point de vue-là, de cet accord, a été un désastre. Parce que la méfiance s'est tout de suite installée du côté iranien. Et les durs en Iran ont dit, on vous l'avait bien dit, vous modérez, vous êtes fait avoir. Hein. Cet accord, c'était un piège pour nous affamer, nous changer le régime, etc. Donc là, on en revient à cette situation. Un petit pas, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Vous voyez, l'idée de faire un grand accord avec l'Iran, c'est à mon avis impossible. Un petit pas, que les États-Unis reviennent dans l'accord, dans le cadre du droit international, lèvent les sanctions liées à l'accord que Trump a réimposé, et ensuite on pourra voir ce qui peut se passer.
Et côté iranien, comment est-ce qu'on peut réagir? Parce qu'on a évoqué ce qui se passe actuellement, on a dit que le début d'année était finalement assez tendu, avec des annonces assez importantes, et puis il y a surtout dans plusieurs mois, faut en parler, au mois de juin, il va y avoir l'élection présidentielle, Hassan Rouhani ne peut pas se représenter, et on annonce un radical à sa place. Alors, ça préfigure quoi des relations? On a parlé de la question américaine, enfin de la position des États-Unis. Ça préfigure quoi, des relations côté iranien avec les États-Unis?
Oui, alors, bon, il faut rester prudent parce que les élections en Iran, c'est pas comme dans d'autres pays. On sait jamais qui va gagner à l'avance. Mais il est vrai que le climat politique, à cause de la politique américaine, a changé.
Il est monté en puissance.
Ben, les modérés sont complètement légitimés parce qu'ils avaient tout basé sur l'accord sur le nucléaire. Donc maintenant, les gens sont en colère contre eux. Et donc, ceux qui restent, quoi, un public un peu qui vote toujours pour eux, c'est les radicaux, effectivement, qui sont complètement anti-américains, qui sont anti-israéliens. Alors, le Parlement, il y a eu des élections au Parlement iranien en février 2020, et maintenant dominé par les radicaux. Ça complique un peu les négociations avec les États-Unis parce que il y a des ambitions présidentielles. Le chef du Parlement, Khalibov, a des ambitions présidentielles. Et je pense que derrière le vote de cette loi dont on a parlé, il y a l'idée de bloquer les négociations quelque part avec les États-Unis. Les radicaux, un certain nombre de radicaux, ils sont contre les États-Unis, mais un grand nombre, ils sont pragmatiques. Ils sont pas contre les États-Unis. Ils veulent que ce soit eux qui négocient avec les États-Unis. Donc Khalibov, dans son esprit, ce serait bien s'il pouvait être élu en juin 2021 et être celui qui va négocier avec les Américains, si vous voulez. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu le jeu. D'un autre côté, c'est vrai que si les États-Unis reviennent dans l'accord en janvier, annulent les sanctions, ça redonne aussi de l'espoir aux modérés qui pourraient se présenter devant la population en disant « Regardez, finalement, notre politique est marche. »
Décryptage sur RFI. Romain Ozoui.
Notre décryptage ce soir consacré aux futures relations entre l'Iran et les États-Unis, apaisement ou durcissement avec la future administration Biden, c'est la question que l'on pose ce soir avec Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. Évidemment, l'Iran et les États-Unis, ils ne vont pas seuls. Il y a tous les blocs autour d'eux. C'est un jeu géopolitique mondial. On va évoquer justement ces deux blocs. Et première question à Thierry Coville, comment est-ce qu'on peut analyser la réconciliation annoncée hier des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Bahreïn, réconciliation avec le Qatar, le Qatar ces dernières années était accusé d'être trop proche de l'Iran. Est-ce que c'est une manière de renforcer finalement un bloc anti-Iran aux côtés des États-Unis?
Non, là je crois pas, parce que je pense que cette réconciliation, elle signe plutôt l'échec de la politique de mise à l'écart du Qatar et de l'embargo contre le Qatar imposé par l'Arabie Saoudite. Donc, et je pense pas que le Qatar va rejeter ses relations avec l'Iran. Déjà, il y a un point, il partage la gestion du plus grand gisement gazier du monde, le gisement de par ce sud. Donc, non, ces relations ne vont pas s'arrêter.
En tout cas, les blocs pro-Iran, pro-États-Unis, ils se renforcent pas selon vous?
Oui, alors je pense qu'une des conséquences de la politique de Trump, ça a été vraiment de cristalliser les positions. Et là, effectivement, vous avez raison, on a vraiment un bloc qui s'est constitué anti-Iran, où on voit ce qui est assez nouveau, hein, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Il n'y a pas l'ombre d'une différence dans leur discours sur l'Iran. Donc ça, c'est complètement nouveau. Et ça, effectivement, c'est une réalité. Et en face, on a effectivement l'Iran qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas isolé, a développé une grande influence régionale, qui, à mon avis, sa principale force aujourd'hui. Ils sont présents en Syrie, ils sont présents en Irak, ils sont présents au Liban avec le Hezbollah, et ils sont présents au Yémen. Donc ils se considèrent pas du tout comme isolés. Et donc là, on a un affrontement géopolitique et qui est monté en tension, à tel point que... C'est ce dont avait peur tout le monde. Si l'Iran avait vraiment répondu à l'assassinat de Soleimani en tuant par exemple des soldats américains, c'était une guerre dans toute la région. Et ça, l'Iran l'a bien annoncé en disant attention, si vous nous attaquez, c'est devenu l'élément quasiment central de leur politique de défense. Si vous nous attaquez, nous on peut mettre le feu dans toute la région.
Et il y avait justement, okay, vous évoquiez Israël, parce que justement sur cette politique de feu aux poudres, est-ce que... les dirigeants israéliens risquent de poursuivre la rhétorique Donald Trump, Israël soupçonné d'avoir tué un cadre du nucléaire iranien. Est-ce que Israël pourrait saper justement ce travail diplomatique éventuellement d'apaisement vers lequel on irait avec Joe Biden et frapper l'Iran pour faire passer le message d'une position radicale contre Téhéran?
Bon, l'Iran, vous savez, c'est déjà assez compliqué de savoir quels sont les raisonnements exacts du gouvernement israélien, etc. Par contre, moi, mon analyse en tant que chercheur, c'est pourquoi ce scientifique iranien a été assassiné. Parce que ça n'arrête pas le programme nucléaire iranien. On en parle aujourd'hui. Ils vont maintenant enrichir 20%. Donc, ils ont des capacités techniques, scientifiques. Ils peuvent le développer, ce programme. Je pense, moi, l'objectif, c'est exactement ça. C'est de faire surréagir l'Iran. Que l'Iran réagisse en se vengeant. Et là, effectivement, ça donne l'occasion. C'est que Trump, il a quand même posé la question d'une frappe sur les installations nucléaires iraniennes il y a quelque temps. Donc, ça donne l'occasion aux États-Unis de frapper l'Iran. Et là, effectivement, il n'y a plus question d'accord, quel que soit, de retour dans l'accord de Biden. Donc, effectivement, il y a peut-être un jeu israélien qui consiste à faire surréagir l'Iran pour que ça donne l'occasion à Trump, tant qu'il est au pouvoir, d'attaquer l'Iran. Et là, effectivement, il n'y a plus de question de normalisation des relations.
Ça veut dire que Joe Biden va devoir un petit peu calmer son allié israélien, un petit peu, justement, sur cette question iranienne?
Oui, d'après ce qu'on sait, c'est pour ça que je pense que le gouvernement israélien est furieux de la politique de Biden. Biden a dit que, voilà, c'est pas ses alliés qui allaient le faire changer d'avis sur le retour des États-Unis dans l'accord. Donc, effectivement, ça, c'est un point central. Il a décidé de revenir dans l'accord. Bon, on vient d'en parler. Il faut voir dans quelles conditions ça se fait. Mais il veut revenir dans l'accord.
Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on pourrait appeler les États tampons, donc ceux qui sont ni pro-iraniens, ni pro-américains. Je pense, par exemple, aux Européens, Royaume-Uni, France, Allemagne, qui ont participé à l'accord sur le nucléaire. Ils ont aujourd'hui réagi à la production, l'enrichissement de production de nucléaire d'uranium à 20%. Cela fait peser un risque très important de prolifération nucléaire. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ces futures relations entre les États-Unis et l'Iran?
C'est toujours délicat de parler de la politique européenne, parce que sur le papier, dans le discours, ils ont toujours soutenu l'accord. Ça, c'est vrai. Bon, dans les faits, on en a parlé, ils ont été incapables de s'opposer à l'imposition des sanctions extraterritoriales américaines contre les entreprises européennes à partir de fin 2018. Donc, ils ont tacitement, en ne faisant rien, pourri la situation. C'est pour ça que Là, ils ont maintenant, ils attendent un nouvel allié américain, mais je pense qu'il serait bien que l'Europe soit également capable de pas simplement par des mots défendre le droit international.
À suivre donc avec la future administration Biden. Merci beaucoup Thierry Covelli, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. C'est la fin de ce décryptage. Vous pouvez bien sûr le réécouter, le podcaster sur notre site internet www.rfi.fr. Restez à l'écoute. Le débat du jour, Guillaume Nodin, c'est dans 30 secondes sur la Radio Mondiale.